à 34. Donc voilà ce qui nous est dit. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. Alors ce qu'on va voir ce matin à partir de ce texte qu'on vient de lire, c'est trois implications de la résurrection de Jésus. Premièrement, si Jésus est ressuscité, alors il y a un Dieu qui existe. Si Jésus est ressuscité, alors il y a un Dieu qui existe. À Pâques, comme je l'ai dit, on célèbre la résurrection de Jésus comme un fait historique réel qui s'est passé dans l'histoire humaine. Et je suis conscient, comme je l'ai dit, que ce n'est pas le cas peut-être pour tout le monde ici. On croit qu'il y a des bonnes raisons d'y croire, de croire à la résurrection de Jésus qui s'est vraiment passée. Alors l'existence de Jésus, la mort de Jésus, n'est pas vraiment un fait controversé. Beaucoup d'érudits, même qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas favorables à la foi chrétienne, reconnaissent que c'est le cas, qu'un homme dénommé Jésus a vécu au 1er siècle, qu'il a été crucifié par les Romains et qu'il a été enterré dans un tombeau. Mais la question se pose de la résurrection de Jésus. Que faire de la découverte du tombeau vide par les femmes, comme on l'a lu ? Que faire de l'affirmation des disciples que Jésus leur serait apparu vivant ? Que faire de la proclamation des disciples et des premiers chrétiens qui affirmaient haut et fort que Jésus est réellement ressuscité, qu'il est revenu à la vie ? Comment considérer ces choses-là ? Alors, il y a plusieurs théories qui sont avancées par ceux qui ne sont pas favorables à la résurrection de Jésus comme un fait historique. Certains vont dire que Jésus n'est pas vraiment mort, qu'il n'était pas vraiment mort, et donc c'est comme ça qu'on a cru qu'il est revenu à la vie. Mais en fait, il était toujours vivant, il n'est jamais vraiment mort. Mais ça semble douteux de penser que les Romains, qui étaient des spécialistes de l'exécution, des spécialistes de la crucifixion, auraient échoué pour mettre à mort Jésus au travers de la crucifixion. Comment imaginer que Jésus aurait pu lui-même rouler la pierre de l'intérieur du tombeau, qui bloquait l'entrée du tombeau, et qui serait apparu à ses disciples, se présentant comme le Seigneur ressuscité, triomphant, alors qu'il serait à moitié mort. Certains diraient que les femmes se sont trompées de tombeau, mais il aurait suffi de leur montrer le bon tombeau, celui où le corps de Jésus se trouvait, et tout se serait arrêté. D'autres voudraient dire que les disciples ont menti, ont inventé la résurrection, ont peut-être même volé le corps pour créer ce mythe un peu chrétien qui voulait mettre en avant le fait que Jésus est ressuscité alors que ça n'avait pas eu lieu. Mais comment penser que quelques disciples qui étaient assez peureux, dont Pierre qui a renié Jésus comme on l'a dit, auraient pu surmonter les soldats qui gardaient l'entrée du tombeau, qui gardaient la pierre qui se trouvait devant le tombeau ? Comment imaginer qu'ils auraient fait cela sans rien avoir à y gagner, parce qu'ils ont été mis à mort pour le fait de proclamer la résurrection de Jésus. Certains meurent, acceptent d'être mis à mort pour des choses qu'ils croient vraiment, mais personne n'accepte de mourir pour un mensonge, pour quelque chose qu'il a inventé lui-même, un mythe qu'il a créé. Certains disent que les disciples qui affirment avoir vu Jésus, c'était des hallucinations. Ils étaient tellement attachés à Jésus, qui voulaient encore que Jésus existe. Et ils avaient ça tellement fort dans leur cœur qu'ils ont cru que Jésus leur est apparu. Mais comment expliquer qu'il ne s'agit pas juste d'une ou deux récits qui nous rapportent cela, mais des dizaines de personnes qui affirment avoir vu Jésus vivant, ressuscité, à différents endroits, dans différents contextes. La seule explication qui tient la route, la seule explication qui satisfait tous les critères d'authenticité, c'est de dire que Jésus est réellement ressuscité, que Jésus était mort et qu'il est revenu à la vie. Alors je suis conscient qu'il faudrait probablement beaucoup plus pour vous convaincre si vous êtes ici et que vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus. Et le but de ce temps qu'on a ensemble, ce n'est pas de vous convaincre que c'est un fait historique. Ou je suis conscient qu'il faudrait plus de temps pour cela, plus d'arguments qui seraient mis en avant. Mais on a à la sortie un livre qu'on aimerait offrir à tous ceux qui sont ici, « Pâques, peut-on vraiment y croire ?» qui détaille ce que je viens de de survoler en plus de profondeur, et que je vous encourage à lire, à creuser par vous-même, pour voir que l'on peut réellement affirmer que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une invention des chrétiens, c'est un fait historique qui s'est passé dans l'histoire humaine. Mais ce que j'aimerais qu'on ait en tête, c'est que si Jésus est vraiment ressuscité, alors ça règle la question de l'existence de Dieu. Alors il y a un Dieu qui existe. C'est une grande question de se demander, mais est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, à quoi est-ce qu'il ressemble? Où est-ce qu'on peut le trouver? Comment est-ce qu'on peut le connaître? Et différentes religions vont affirmer différentes choses par rapport à Dieu, par rapport au chemin qui mène à Dieu, par rapport à ce à quoi il ressemble, par rapport à où on peut trouver Dieu. Mais le fait que Jésus soit ressuscité, qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, nous pointe vers la bonne réponse. La résurrection de Jésus nous pointe vers le chemin qui mène à Dieu. Parce que seul Dieu peut faire cela, vaincre la mort de cette manière. L'homme est impuissant face à la mort. Malgré toutes les différences que l'on a entre nous, malgré toutes les inégalités qu'on peut voir dans ce monde, il y a une chose qui est la même pour tout le monde, c'est que la mort est une certitude. On peut peut-être faire des choses pour repousser la mort, de quelques années, de quelques dizaines d'années peut-être, mais l'être humain ne peut pas annuler la mort, ne peut pas anéantir la mort. L'être humain ne peut pas régler définitivement la question de la mort. Chaque funéraille est un triste rappel de cette réalité qui nous concerne tous, alors qu'on voit un cercueil avec un corps sans vie et que l'espoir n'est plus. L'homme est impuissant face à la mort. Mais s'il y a quelqu'un qui est ressuscité, qui est revenu à la vie de sa propre autorité, ça montre qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. Ça montre qu'il y a un Dieu qui existe. Ça montre qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce que l'être humain ne peut pas faire. Alors je suis conscient qu'il s'agit d'une question de foi, de croire en la résurrection de Jésus, de croire que cela prouve qu'un Dieu existe. Mais il ne s'agit pas d'une foi aveugle. Ça, c'est peut-être la mauvaise compréhension qu'on a de la foi, de penser qu'on doit se forcer à croire quelque chose qui est une contradiction évidente, ou se forcer à croire quelque chose pour lequel on n'a aucune preuve. Un peu penser que la foi, c'est se jeter dans le vide et espérer qu'il y aurait un parachute qui va nous retenir à un moment donné. Mais ce n'est pas ça une bonne compréhension de la foi. Ce n'est pas ça qu'offre la foi chrétienne. La foi, c'est placer sa confiance en quelque chose qui est fiable, que l'on a reconnu comme étant fiable. C'est connaître quelque chose, avoir examiné quelque chose, reconnaître que c'est vrai et s'y confier. Et on peut faire cela en ce qui concerne la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité. Alors, la première implication, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Je vous encourage à continuer à creuser ça par vous-même pour voir si le contenu chrétien tient la route. Mais deuxième implication, si Jésus est ressuscité, alors il y a un jugement qui arrive. Et là, ça nous amène un peu plus directement à notre texte. Donc, si vous avez toujours ça au dos du livret, dans Actes 17, si vous voyez le petit 31, voilà ce que l'apôtre Paul dit, voilà ce qu'il déclare. « Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant d'entre les morts. » Je ne sais pas quelle est votre conception de Jésus, quelle image vous avez de Jésus. On peut facilement penser à Jésus comme quelqu'un de doux, d'inoffensif peut-être, d'un peu passif. Et c'est vrai que Jésus, dans les évangiles qui nous rapportent sa vie, est montré comme un exemple de compassion, un exemple de douceur, un exemple d'amour. Mais ici, Jésus est décrit comme celui qui va juger le monde entier. Jésus est décrit comme étant celui qui règne sur le trône de l'univers, qui est le juge du monde entier. Il nous est dit que la manifestation de cela, la preuve de cela, c'est la résurrection de Jésus. Le fait que Jésus était mort et qu'il est revenu à la vie proclame au grand jour qui Jésus est. Jésus a annoncé à l'avance sa mort et sa résurrection. Il a dit qu'il va donner sa vie et qu'il va la reprendre. Il est celui qui est au contrôle. Et lors de sa résurrection, Jésus est revenu à la vie pour ne plus jamais mourir. Il a définitivement vaincu la mort. Comme on l'a dit, seul Dieu peut faire cela. Tout cela rejoint l'affirmation que la Bible fait par rapport à Jésus, qu'il n'est pas simplement homme, mais qu'il est aussi Dieu lui-même. Ce n'est pas que Jésus est simplement un homme important, ce n'est pas que Jésus est un homme qui a un super pouvoir ou comme un super héros, ce n'est pas qu'il est moitié-moitié, moitié homme, moitié Dieu, mais ce que la Bible dit, c'est que Jésus est véritablement homme et véritablement Dieu. Il est les deux à la fois. Tout ce qu'on peut dire de l'être humain, qui fait qu'un être humain est un être humain, on peut le dire par rapport à Jésus. Et tout ce qui fait que Dieu est Dieu, on peut le dire par rapport à Jésus. C'est pour cela que Jésus règne sur le trône de l'univers et qu'il va juger le monde. Et lorsque l'on regarde la résurrection de Jésus, on voit la preuve de cela au grand jour. C'est un rappel que c'est le cas, que cela va arriver, que le jugement arrive. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à l'idée d'un jugement. On entend parler du jugement dernier, du jugement final. On est probablement tous un peu d'accord pour dire que l'idée d'un jugement est une bonne chose. Quand on pense à toutes les atrocités qui sont commises dans le monde, quand on pense à la corruption qui existe dans nos sociétés, quand on pense aux grands criminels, ben on est d'accord de dire qu'il y a un jugement, qu'il faut que certains soient jugés, qu'il faut que le mal soit puni. Mais c'est un peu plus difficile à accepter quand ça nous concerne, de dire que nous, on doit être jugés, que nous, on doit être condamnés. On a un peu plus de mal à accepter cela. On reconnaît, j'imagine, qu'on n'est pas parfait. On est assez humble, n'est-ce pas, pour reconnaître qu'on n'est pas parfait. Mais on veut en même temps dire qu'on n'est pas si mauvais que ça. Que si on devait faire un classement du pire, plus pire au meilleur dans les êtres humains, on serait dans la meilleure moyenne, un peu au-dessus de la moyenne. Tout en haut, bien sûr, on est humble, n'est-ce pas? Mais on serait au moins dans la meilleure moyenne. Donc on reconnaît qu'il faut un jugement, mais quand ce jugement nous pointe du doigt, on a un peu plus de mal à l'accepter. Mais ce passage nous dit que Jésus va juger le monde selon la justice. En toute justice. Pas comme la justice humaine, qui est une justice variable, qui n'est pas une justice sûre, stable. C'est une justice qui se trompe, qui condamne des innocents et qui laisse sortir des coupables. Non, le jugement dernier sera un jugement qui sera totalement juste, où le mal sera puni, tout mal. C'est une bonne nouvelle, parce que quand l'injustice règne, on veut qu'il y ait un jugement et qu'il y ait un jugement juste. Ceux qui ont échappé à la justice humaine n'échapperont pas à la justice divine. Mais c'est aussi une nouvelle terrifiante. On devrait réaliser que c'est une nouvelle terrifiante, parce que ça nous concerne, chacun de nous. Peut-être qu'on arrive à sauver la face de l'extérieur, à paraître être une bonne personne, ou pas aussi mauvais que l'on est. Mais si on est honnête, on doit être conscient que nos cœurs, à chacun de nous, sont des usines qui produisent du mal, qui produisent des choses qui ne sont pas bonnes, qui produisent des choses qu'on ne serait pas fiers d'afficher devant tout le monde. En fait, imaginez qu'il y ait une application qui sorte, qui permette de lire dans les pensées des autres. Imaginez. Combien est-ce que vous seriez prêt à payer pour que personne ne puisse utiliser cette application sur vous? On serait prêt à payer cher, n'est-ce pas? Parce qu'on est conscient que pas tout n'est bon. Pas tout est bon dans ce qui sort de nous, dans ce qui vient de notre cœur. C'est le constat que la Bible fait, que l'on est tous coupables, que l'on est tous rebelles devant Dieu, qu'on est tous concernés par ce que la Bible appelle le péché. Quand la Bible parle du péché, ce n'est pas pour désigner quelque chose de mignon, pas pour parler d'une faiblesse, pas pour parler d'un défaut, mais pour parler de la rébellion qui se trouve dans notre cœur, la rébellion envers notre Créateur, la rébellion envers Dieu. C'est ce que l'on a tous fait. On a été créés pour Dieu, mais on a vécu pour nous-mêmes. Chacun de manière différente, que ce soit sous des formes religieuses, que ce soit en ignorant Dieu, que ce soit en le rejetant explicitement. On a tous fait cela de différentes manières. Et la conséquence, c'est qu'on est tous concernés par ce jugement qui arrive. Le verdict est le même pour tout le monde. On est coupable devant Dieu. On mérite un jugement de sa part, on mérite la condamnation éternelle que la Bible appelle enfer, la colère juste de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise qui devrait nous terrifier. Et ça nous amène à réaliser que la résurrection de Jésus nous pointe du doigt. Le juge de tout l'univers est vivant. Et il va juger. Il va rendre la justice. Il est même dit qu'il s'agit d'un jour précis. Dans le verset 31, Dieu a fixé un jour. On pense facilement à quelque chose d'abstrait quand on pense au jugement dernier, à la fin des temps. C'est quelque chose qui plane un peu dans nos esprits, qui plane dans nos têtes. Mais ici, il nous est dit qu'il s'agit d'un jour précis, d'un jour particulier, d'un jour qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître, mais qui se trouve dans nos agendas à tous, ici, aujourd'hui. On est tous concernés. On va tous, un jour, se retrouver devant le Seigneur ressuscité et devoir rendre des comptes pour la manière dont on a vécu la vie qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité. Alors il y a un jugement qui arrive. Et donc ça nous amène à la troisième implication. Jésus est ressuscité, alors il faut prendre position. Il faut prendre position. La résurrection de Jésus, c'est pas juste une belle histoire qu'on entend et puis ça s'arrête là. Comme un peu un livre pour enfants qu'on lit. Voilà, tout est bien, qui se termine bien. On ferme le livre et on passe à autre chose. Non, non, la résurrection de Jésus, c'est un message qui nous appelle urgemment à prendre position, à décider dans quel camp on se trouve. Regardez le verset 30, juste avant, le tout début de passage qu'on médite. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parfois, quand il y a un danger, quand il y a des intempéries, quand il y a quelque chose qui se passe, le gouvernement ou je ne sais pas qui envoie un message sur tous les téléphones, une alerte, vous savez, qu'on reçoit sur le téléphone. Ce n'est pas un SMS, mais c'est, je ne sais pas comment ils font ça. Voilà, un message qui est envoyé à tous les téléphones de tous ceux qui se trouvent dans cette région-là. Ici, ce qui nous est dit, c'est comme si Dieu lui-même envoyait un message à tous les êtres humains, sur toute la terre, peu importe où ils se trouvent, en disant, il y a un jugement qui arrive, repentez-vous, repentez-vous. Quand la Bible parle de repentance, il s'agit de faire demi-tour, de réaliser qu'on ne va pas dans la bonne direction, qu'on a fait faux, de prendre conscience de cela d'une manière qui nous amène à nous en détourner, à faire demi-tour, à revenir en arrière. Et c'est Dieu lui-même qui nous appelle à faire cela. C'est un cadeau de sa part, qui nous prévient qu'un jugement arrive et qui nous appelle à faire demi-tour avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il y a une solution pour échapper à ce jugement. La résurrection de Jésus pointe vers cette solution, vers ce besoin de prendre position et de courir vers le bon endroit. Parce que la résurrection de Jésus, ce n'est pas un fait isolé, mais on pourrait dire que ça boucle la boucle de l'œuvre de Jésus, de tout ce qu'il a accompli. Jésus a vécu sur cette terre, et il a vécu une vie parfaite, sans péché. Il n'a jamais désobéi, il n'a jamais eu cette usine qui produit le mal comme nous on l'a dans nos cœurs. Il a toujours vécu parfaitement comme nous on aurait dû vivre. Il a réussi là où nous avons tous échoué. Et Jésus est mort sur la croix. Et quand Jésus meurt sur la croix, il prend notre peine, il prend notre condamnation, il prend ce que nous on mérite. C'est sa mort, c'est ses souffrances et pourtant c'est notre peine. C'est notre péché qui a entraîné cela. C'est ce que nous, on aurait dû subir, ce que nous, on devrait subir pour l'éternité. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu doit punir le péché, Dieu doit punir le mal, il ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Et en même temps, Dieu est plein de grâce, Dieu est plein d'amour, Dieu veut sauver, Dieu veut pardonner. Et donc, il envoie son Fils dans le monde pour payer à la place des êtres humains qui ne le méritent vraiment pas. Si la croix est si belle, si la croix est une si bonne nouvelle, si c'est le symbole du christianisme, c'est parce que c'est là que tout se joue d'une certaine manière, où Jésus paye à notre place. Mais on doit réaliser que tout cela mène à la résurrection. La résurrection n'a aucun sens sans tout ce qui vient avant. Si c'est un symbole d'espérance, si c'est un symbole de paix, de joie, c'est parce que c'est la preuve au grand jour que tout ce que Jésus a dit et fait à marcher est vrai et digne de confiance, que la mort de Jésus sur la croix était suffisante, que Jésus a réellement réglé le problème du péché, le problème de nos cœurs mauvais. Sinon, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Sinon, on ne pourrait pas s'en réjouir. Donc la résurrection de Jésus montre que cette solution est pleine et suffisante. Il est ressuscité, c'est accompli. Le tombeau est vide, il n'y a plus rien à faire. La mort de Jésus sur la croix mène à la résurrection. Il a vaincu la mort parce qu'il a vaincu le péché. Et donc le pardon est possible. Et donc il y a un moyen d'échapper à ce jugement, d'échapper à la condamnation qu'on mérite. Un moyen que Dieu lui-même donne, que Dieu lui-même offre aux êtres humains. Alors comment réagir? On termine avec cela. Ben, il y a des mauvaises réactions qui sont possibles. On le voit dans le texte qu'on a sous les yeux, au verset 32. Quand certains entendent parler de résurrection des morts, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent accepter, c'est un conte de fées pour eux. C'est peut-être votre réaction ce matin. Ou peut-être si vous ne vous moquez pas, en tout cas, vous dites « mais ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible pour moi d'accepter, qui est trop loin de la réalité ». Vous dénigrez cela, vous le mettez de côté comme un mythe. Ou alors on peut croire que c'est vrai, croire que Jésus est réellement ressuscité, mais toujours être en train d'essayer de faire des efforts par soi-même, d'essayer de se sauver par soi-même, d'accéder à Dieu par soi-même, par sa propre force. Mais cela, ça revient à la même chose. Merci beaucoup, Fabrice. Ne pas réaliser que le fait que le tombeau est vide change quelque chose, montre que l'on n'a rien à faire, rien qu'on devrait faire. Ça non plus, ce n'est pas une bonne réaction. Non, la seule bonne réaction face à la résurrection de Jésus, face au tombeau vide, c'est de faire demi-tour et de croire, de réaliser qu'on a fait faux, de réaliser qu'on s'est trompé, de réaliser que Jésus a pris le jugement que nous, on mérite. Et que notre seul espoir pour faire face au jugement sans crainte, c'est de nous confier en Jésus. De recevoir le cadeau qui a été offert par Dieu lui-même. On voit que c'est ce que font certains. Il est dit à la toute fin, au verset 34, « Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres encore. » C'est simple, c'est pas compliqué d'une certaine manière. Il s'agit juste de reconnaître qu'on a fait faux, de reconnaître qu'on est coupable devant Dieu, de reconnaître que Jésus est la solution. Quelques-uns l'ont fait à l'époque, pas un grand nombre, simplement quelques-uns. Mais vous aussi, ce matin, vous pourriez faire partie de ces quelques-uns. Reconnaître que la résurrection de Jésus vous concerne, vous appelle à faire demi-tour avant qu'il soit trop tard, avant que le jugement arrive. Et on aimerait bien qu'il y ait une autre réaction possible, de penser qu'on pourrait peut-être être un peu entre les deux, ne pas rejeter ouvertement la résurrection de Jésus, ne pas l'accepter totalement, mais l'ignorer, la mettre de côté, repousser la question à plus tard, dire « bah c'était intéressant ce culte de Pâques, cette église, il y avait des bons croissants, il y avait du café, des bonnes personnes, et puis on reprend sa vie normalement et on met de côté tout ce qu'on a oublié ». Ça, c'est la réaction facile, naturelle, que l'on a envie d'avoir. Mais on doit réaliser que ignorer de cette manière-là, mettre de côté, ranger la question dans le casier religieux pour repousser à plus tard, ça revient au même. Ça revient à dire que ce n'est pas vrai. Ou en tout cas, que ce n'est pas si urgent que ça. Imaginez qu'il y ait une alarme incendie qui résonne dans ce bâtiment. Ben, il n'y aurait que deux réactions possibles. Soit on pense que c'est vrai, qu'il y a vraiment le feu et on doit fuir, on doit s'échapper, on doit sortir. Soit on se dit, mais c'est pas vrai, c'est juste un test, c'est une erreur. Et dans ce cas, on reste. Mais on peut pas être entre les deux, en train de se dire, ah bah, peut-être qu'il y a vraiment le feu dans le bâtiment, mais bon, je verrai plus tard, j'attends un peu. Bah non, ça aurait aucun sens. Ce serait reconnaître que c'est pas réellement vrai, ou que c'est pas si urgent que ça, ou qu'on le prend pas autant au sérieux qu'on devrait. Et c'est la même chose concernant la foi chrétienne. C'est la même chose concernant la résurrection de Jésus. Il n'y a que deux issues possibles. Alors on vit aujourd'hui en pensant que Dieu n'existe pas ou que s'il existe, ça ne change pas grand-chose. Mais ce matin, on est rappelé que Jésus est ressuscité. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Ça veut dire que le jugement arrive et ça veut dire qu'on doit prendre position. Je vais laisser la place à Steve pour terminer cette rencontre ensemble et recommander des ressources que vous pouvez creuser. On vous encourage en tout cas à ne pas laisser ça entrer par une oreille et sortir par l'autre. C'est important, ça nous concerne. Et il y a une solution qui nous concerne chacun de nous, aujourd'hui également. Merci et je laisse la place à Steve.